La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de l'archipel Muse. L'étude dont nous vous parlons aujourd'hui, a été saluée comme un cap franchi. Non, il ne s'agit ni du cap de Bonne Espérance, ni du cap Horn, mais d'un cap technologique permettant de multiplier par 1000 la densité de puissance électrique obtenue à partir d'une conversion thermo-photovoltaïque. Vous l'avez compris, notre navigation du jour nous emmène dans les méandres de l'ingénierie où des scientifiques tentent de relever un défi de taille, récupérer l'énergie du milieu ambiant pour développer la production d'énergie décarbonée. Notre invité fait partie de cet équipage. Chercheur à l'Institut d'électronique et des systèmes de Montpellier, il a collaboré avec ses confrères du Centre d'énergétique et de thermique de Lyon. Rodolphe Vaillon, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour mener cette interview, l'électrique Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, la chronique En salle des machines vous emmène sur la plateforme POM pour plateforme d'optomicrofluidique de Montpellier. Pascal Etienne, responsable de l'équipe matériaux hybrides et nanostructurés au laboratoire Charles Coulon, nous explique comment fabriquer une puce optomicrofluidique. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors Rodolphe Vaillant, il y avait beaucoup de mots compliqués dans cette introduction. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer pourquoi on cherche à développer de nouvelles méthodes pour produire de l'électricité ?
Eh bien, vous savez que dans cette idée de mettre en place une transition énergétique décarbonée, il faut trouver de nouveaux moyens de produire de l'électricité. Et parmi ces moyens, forcément, vous connaissez le nucléaire, le solaire, l'éolien. Et il y a des possibilités nouvelles qui s'offrent à nous, notamment à partir de corps chauds, ce qu'on va voir ensemble dans les minutes qui viennent.
Alors justement, cette méthode que Lucie a citée, qui s'appelle la conversion thermo-photovoltaïque, c'est pas une méthode qui est nouvelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est son principe ?
Alors en effet, c'est pas nouveau, puisque c'est dans les années 1950-1960 que ça a été proposé par un Français, Pierre Aigrin. Donc l'idée étant de récupérer du rayonnement qui provient de corps chauds, qui sont portés à haute température, hein, plusieurs centaines de degrés Celsius, et de le convertir en puissance électrique en utilisant le processus qui s'appelle conversion photovoltaïque, qui est bien connu pour tous les panneaux solaires que les gens ont parfois sur leur maison. La différence, c'est que le rayonnement ne provient pas du soleil, mais de corps à très haute température.
Et on parle dans ces cas-là de rendement de conversion. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le rendement de conversion, c'est de savoir, pour la puissance qui provient du corps chaud, hein, que le convertisseur reçoit, quelle est la fraction qui sert effectivement à produire une puissance électrique. C'est-à-dire que tout n'est pas utilisé, et donc le rendement, c'est simplement le rapport de la puissance électrique sur la puissance qui est absorbée par le convertisseur.
Alors, donc jusqu'à présent, ce rendement de conversion, il était de l'ordre de 30%, mais il ne permettait pas une amélioration de la densité de puissance électrique. Alors, avant de revenir sur le rendement que vous avez obtenu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la densité de puissance électrique ?
Alors, la densité de puissance électrique, c'est la puissance électrique rapportée à la surface du convertisseur. C'est-à-dire que plus cette densité de puissance va être importante, plus vous allez produire une même puissance avec une surface qui est plus petite. D'où l'intérêt d'avoir une densité plus élevée, densité de puissance électrique plus élevée.
Alors, on a vu en préparant l'émission que cette densité, elle était limitée par une loi qui s'appelle la loi de Planck. Ça signifie quoi ?
Alors, la loi de Planck, c'est la loi qui régit l'émission de rayonnement par des corps chauds, mais lorsque ces corps sont distants les uns des autres ou relativement grands. Donc, c'est la loi qui régit, en fait, l'échange de chaleur à distance par des ondes électromagnétiques lorsque la distance qui sépare est très grande. Et donc, l'intérêt, c'est de dépasser cette loi en réduisant la distance qui sépare l'émetteur du récepteur, donc du convertisseur.
Alors c'est parfait, vous nous faites une transition parfaite. Donc on va en arriver à la manipulation que vous avez réalisée. Et notamment, donc, ce qui est important dans cette manipulation, c'est la distance proche, justement, donc, entre l'émetteur et... on peut parler de récepteur ?
Oui, c'est ça, de récepteur. Alors je vais peut-être quand même expliquer, revenir sur le point de départ, qui est ce rendement de 30% pour des cellules thermophotovoltaïques. Donc, lorsque l'émetteur et le récepteur sont loin l'un de l'autre. Donc, 30%, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'un moteur thermique, c'est aussi, son rendement, c'est aussi de l'ordre de 30%. Donc, c'est plutôt déjà une prouesse. Il faut savoir que pour les cellules solaires photovoltaïques classiques, les rendements de vos panneaux photovoltaïques sur votre maison sont de l'ordre de 20%, un petit peu plus, hein, pour les meilleurs. Donc, le point de départ est déjà pas mal. Donc là, la différence, c'est qu'on aimerait pouvoir augmenter ce rendement en rapprochant en fait, l'émetteur du récepteur. Et pour ça, on va bénéficier d'un phénomène supplémentaire par rapport au rayonnement classique qu'on appelle des ondes évanescentes. Alors, des ondes évanescentes sont des ondes qui décroissent, dont l'intensité décroît exponentiellement. Donc, la croissance exponentielle, c'est des choses dont on a entendu parler en ce moment, oui. dans un contexte d'épidémie. Mais là, cette fois, c'est une décroissance qui fait que à 10 microns de la surface, vous n'avez plus du tout cet effet qui apparaît. Donc, ce qui veut dire que pour un corps qui est à température ambiante, il faut rapprocher l'émetteur du récepteur à une distance de moins de 10 microns. Si le corps est porté à une température plus élevée, hein, de l'ordre de 1000 degrés, bon, là, c'est encore pire, il faut le rapprocher à des distances qui sont inférieures à 2-3 microns.
Alors, vous pouvez nous donner des éléments pour qu'on comprenne 2-3 microns, de quoi il est question ?
Oui, alors, nous, ce qu'on a réussi à faire, alors, pour démontrer ces effets, c'est le défi, c'était de pouvoir rapprocher un objet à des distances qui sont très, très petites. Et les plus petites distances pour lesquelles il y a eu des expériences qui ont été réalisées entre deux plans, c'est de l'ordre de 100 nanomètres. Alors 100 nanomètres, c'est assez difficile à expliquer, c'est 0,30 et 1. 70, pardon, et 1, excusez-moi. Et donc pour pouvoir y arriver, les meilleures expériences ont utilisé des surfaces d'une aire de 5 mm par 5 mm, avec séparées d'une distance de 100 nanomètres. Pour pouvoir faire une comparaison, ça revient à prendre une feuille A4, donc 21 par 29,7 cm, et de les rapprocher l'une de l'autre à une distance qui est de l'ordre d'un demi-cheveu, voire d'un quart de cheveu. Alors vous imaginez quand même le défi pour pouvoir réaliser ça, sachant que par ailleurs, il faut être capable de maintenir une différence de température très élevée, un émetteur très chaud et un récepteur qui reste à température ambiante, voire froid. Donc nous, ce qu'on a considéré, c'est que c'était un défi technologique qui était trop grand pour pouvoir démontrer cet effet thermophotovoltaïque à très petite distance. Donc au lieu de prendre un plan comme émetteur, on a choisi de prendre une sphère, donc une sphère de 40 microns, au-dessus de notre cellule photovoltaïque qui... convertit le rayonnement comme ils font, on en parlera prochainement. Et donc, pour faire un ordre de comparaison, hein, pour le cas plan-plan, c'était une feuille A4 séparée d'un demi-cheveu à un quart de cheveu d'une autre feuille A4. Ici, ça revient à un ballon de football séparé d'un cheveu à un tiers de cheveu du convertisseur, de la cellule. Donc, c'est un peu ça l'ordre de grandeur, à part que tout est réduit et que notre émetteur est tout petit, très petit.
Alors, vous nous avez parlé un peu de la chaleur, si on peut donner un ordre de grandeur. Vous travaillez avec des températures de 450 degrés, c'est ça ?
Oui, effectivement. Alors là aussi, on a décidé de travailler à des températures pas trop élevées parce que, vous comprenez, lorsque deux corps sont séparés d'une toute petite distance, il va quand même y avoir un risque de transfert de rayonnement et qui va risque d'échauffer la cellule, sachant que pour l'exemple qui dont on a parlé tout à l'heure, hein, avec les 30% de rendement lorsque l'émetteur est très loin de la cellule, les records de 30% étaient plutôt obtenus pour des émetteurs à 1000 degrés C. Donc vous imaginez, c'était un peu compliqué d'arriver à faire ça avec des très petites distances. Donc on a choisi plutôt de faire la démonstration dans un premier temps pour des températures moins élevées, à certains avantages, qui sont que lorsque cet émetteur va devoir fonctionner, hein, lorsque ça sera bien démontré en laboratoire et qu'ensuite il y aura un développement à plus grande échelle et que ça sera en utilisation industrielle, il faudra que ça puisse, ce système puisse fonctionner dans la durée. Or, à 1000 degrés C, il y a des processus de dégradation des matériaux, de vieillissement qui peuvent apparaître et qui sont moindres si la température est moins élevée. Et on va voir que, en effet, ça vaut le coup, puisque les résultats que nous avons obtenus sont plutôt excellents.
Mais elle vient d'où, cette température ? Comment est-ce que vous produisez des températures de l'ordre de... Enfin, parce que même si c'est inférieur, 450 degrés, ça reste des températures élevées. Vous la produisez, cette chaleur ?
Alors, on a une grande chance, c'est qu'il y a énormément de chaleur disponible dans l'environnement qu'on appelle de la chaleur perdue. C'est aussi dénommé chaleur fatale, vous pourrez rechercher sur Internet. Et d'où provient cette chaleur ? Elle a plusieurs sources. Il y en a une qui provient de tous les convertisseurs d'énergie, ont des rendements que j'ai expliqué tout à l'heure qui ne sont pas très bons, et tout ce qui n'est pas converti en puissance électrique est converti en chaleur. Donc ça veut dire qu'il y a de la chaleur disponible dans tout un tas de procédés. Par exemple, toute la chaleur qui est produite dans une centrale à charbon ne sert pas à être convertie en puissance électrique. Donc c'est un moyen de récupérer cette chaleur. Vous pouvez aussi avoir votre moteur de voiture. Vous savez que le rendement du cycle de combustion est aussi pas très très élevé. Le reste est perdu en chaleur. Donc il serait intéressant de placer des cellules thermophotovoltaïques autour de ce moteur pour récupérer la chaleur. Donc ça, c'est récupérer de la chaleur disponible dans l'environnement. Il y a un autre... Il y a une autre source qui est un ensemble de processus, de procédés industriels à haute température, par exemple la sidérurgie, ou les procédés variés, où toute la chaleur n'est pas utilisée pour le procédé, et donc pour être, être convertie en électricité, et ensuite pouvoir participer au fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, pour terminer... Il faut savoir que tout ce qui est cellules solaires ou toutes les énergies renouvelables de type éolien souffrent d'une faiblesse qui est l'intermittence de la disponibilité de la ressource. Vous n'avez pas de soleil la nuit et une grande difficulté, c'est mais vous pouvez avoir besoin d'électricité la nuit et notamment l'hiver. Donc une solution à ça, c'est d'essayer de stocker l'électricité. Mais notre manière de le faire, ça serait d'utiliser aussi l'énergie solaire, de la concentrer sur un corps qu'on va porter à haute température. Donc ça va être du stockage thermique, de s'assurer que la chaleur qui sera stockée ne sera pas perdue et disponible lorsqu'on en a besoin, donc par exemple la nuit, pour pouvoir à nouveau produire de l'électricité. Et puisque cette chaleur émet un rayonnement qui est plus convenable pour les cellules thermophotovoltaïques, c'est ici que le procédé dont nous avons parlé précédemment a tout son intérêt.
Alors cette cellule photovoltaïque justement dont vous parlez, c'est une cellule photovoltaïque infrarouge. Qu'est-ce que ça change par rapport à une cellule photovoltaïque normale qu'on trouverait sur un panneau solaire ?
Alors une cellule photovoltaïque normale qu'on retrouve sur un panneau solaire est capable d'utiliser du rayonnement qui provient du soleil, donc c'est du rayonnement visible, hein, nos yeux le voient, qui a une relative haute énergie. Il faut que le matériau soit sensible à ces énergies pour pouvoir exciter des charges, donc des électrons, qui vont générer un courant. Or là, nous considérons des matériaux qui émettent du rayonnement, mais qu'on ne voit pas nécessairement. Hein, c'est infrarouge que nos yeux ne sont pas capables de voir. Donc il faut utiliser des matériaux qui sont aussi capables de produire cet effet photovoltaïque, mais pour du rayonnement qui est incident, qui est infrarouge et non plus visible.
Et alors vous avez obtenu un rendement, on l'a dit, supérieur à 10% et une puissance électrique de 7 kW au mètre carré. Est-ce que concrètement, vous pourriez nous aider à nous représenter ce que c'est 7 kW au mètre carré ?
Alors, 7 kW au mètre carré, c'est quand même une sacrée performance, surtout à 460 degrés. Pour pouvoir faire une comparaison, le rayonnement solaire qui nous arrive sur Terre, c'est 1000 watts par mètre carré, donc 7 fois moins. Ce qui veut dire que pour une cellule photovoltaïque solaire classique et un rendement de 20%, au mieux, vous allez pouvoir produire 200 watts par mètre carré avec votre cellule photovoltaïque. Ici, simplement avec une source qui est à plus basse température, donc 460 degrés, alors que comparativement, le Soleil, on peut considérer que c'est aussi une source de rayonnement, mais à bien plus haute température. Donc on peut l'assimiler à une surface à 6000 degrés. Ben, vous voyez qu'on est capable de produire plus de 7000 watts par mètre carré, tout simplement, grâce à ces effets de rapprochement entre le corps chaud et le convertisseur.
Et ça vous permet d'obtenir une performance 1000 fois plus élevée que les expériences précédentes, c'est ça?
Oui, alors c'est ça. Il y a très très peu d'expériences qui ont été réalisées parce que la grande difficulté, c'est d'arriver, comme je vous l'ai expliqué précédemment, à rapprocher un émetteur du récepteur à des distances qui sont très 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 petites. Donc c'est une prouesse technologique. Et jusqu'ici, il y avait eu trois équipes dans le monde qui avaient été capables de démontrer les effets. Mais avec des rendements qui avaient été évalués de l'ordre de 1%, donc on a fait 14 fois mieux. Et en termes de puissance, on a fait 1000 fois mieux. Et on a fait 1000 fois mieux pour un certain nombre de raisons que peut-être nous allons voir ensemble dans la suite.
Alors, cette découverte-là, ça permettrait quoi concrètement? Ça permet de faire des panneaux solaires beaucoup plus performants? Ça permet quoi?
Alors, ça ne permet pas de faire des panneaux solaires plus performants, mais ça permet d'utiliser une ressource qui est disponible dans la nature, qui est perdue, qui pourrait être utilisée pour produire de l'électricité. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est cette chaleur fatale qui est disponible, qui est produite dans tout un tas d'autres procédés de conversion, et puis aussi de la chaleur qui est disponible sur sites industriels ou tout simplement sur votre voiture. Et le deuxième élément, qui est aussi cette idée de pouvoir stocker de l'énergie sous forme thermique et de pouvoir ensuite la reconvertir. Et il a même été proposé, et ça va vous paraître complètement dingue, puisque le stockage de l'électricité, c'est pas quelque chose... il faut que ça serve tout de suite. Vous ne pouvez pas dire un électron bouge, on vient quand on a besoin de toi. Donc il faut c'est l'électricité, ce sont des charges qui circulent. Donc l'idée, c'est de stocker cette électricité quand on n'en a pas besoin dans des batteries, avec tout un tas de difficultés, et la recherche avance sur ces sujets. Mais il y a une idée qui a été proposée, qui serait de stocker l'électricité sous forme de chaleur. C'est-à-dire d'utiliser de l'électricité qui n'est pas demandé par la population, il n'y a pas de consommation, pour chauffer un corps à très haute température, et donc de stocker cette énergie sous forme thermique. Le stockage thermique n'est pas très très coûteux, et ensuite de pouvoir réutiliser cette puissance thermique pour de nouveau la convertir en électricité grâce au procédé thermophotovoltaïque. Et ça, c'est une idée qui a été proposée par le Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, et qui travaille avec le NREL, donc National Renewable Energy Laboratory, pour développer cette idée à la fois du côté système, grand système, où on vous récupère de l'énergie, vous la stockez à très haute température, ensuite vous construisez une cellule photovoltaïque qui est capable de convertir ce rayonnement infrarouge, et vous pouvez l'utiliser à demande, y compris la nuit.
Alors, Rodolphe Vaillant, on est déjà arrivé au terme de cette interview. C'est passé très vite. On avait encore d'autres questions. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir bien voulu répondre à toutes celles qu'on vous a déjà posées.
Merci de m'avoir reçu, et je suis ravi d'avoir pu partager avec vous et avec vos auditeurs ces travaux.
Et on passe maintenant à notre rubrique En salle des machines, où nous nous rendons sur le campus Triolet et plus exactement sur la plateforme POM. POM pour plateforme d'optomicrofluidique de Montpellier. Depuis 2019, cette plateforme fabrique des puces optomicrofluidiques. Vous voulez la recette? C'est maintenant avec Pascal Etienne de l'équipe, matériaux hybrides et nanostructurés au laboratoire de physique Charles Coulon.
Il y a quelqu'un qui m'entend?
Oui, qu'est-ce que vous voyez?
Un iceberg droit devant!
Je m'appelle Pascal Etienne, donc je suis enseignant chercheur et je suis dans un laboratoire de physique, le laboratoire Charles Coulon, et je dirige une équipe de recherche qui s'appelle matériaux hybrides et nanostructurés. Donc on est à la frontière entre la physique et la chimie.
Aujourd'hui, donc, vous nous avez emmené sur la plateforme POM. D'abord, POM, qu'est-ce que c'est?
C'est une plateforme régionale de recherche et d'innovation. Donc, elle est destinée à fabriquer des dispositifs qu'on appelle opto-microfluidiques. Alors, ces dispositifs, ce sont des systèmes qui sont là pour miniaturiser tout ce qui est dans le domaine de l'optique et de la fluidique. Donc, on va finalement faire la synthèse entre l'optique que l'on utilise dans les fibres optiques et que l'on va mettre sur une puce, ce qu'on appelle l'optique guidée. Et aussi, on va faire la même chose avec le fluide. Donc, on va fabriquer des micro-canaux que l'on va aussi mettre sur puce. Et on va assembler ces deux objets. Et donc, on va pouvoir comme ça faire de l'interaction entre un fluide et un système optique.
Alors, pour les néophytes, est-ce que je peux vous demander ce que vous entendez par fluide ?
Alors, le fluide, c'est un système qui est soit liquide, soit gazeux. Et donc, microfluidique, ça veut dire qu'on va, utiliser des tuyaux, mais tout petits, en fait, dont le diamètre va être de quelques dizaines de microns. Et l'intérêt, c'est qu'on va accéder à des propriétés particulières qu'on n'a pas dans des tuyaux qui sont plus gros.
Pour rentrer dans la plateforme, il faut s'équiper, vous m'avez dit, c'est ça ?
Oui, parce qu'on va réaliser des dispositifs dans lesquels il ne faut pas qu'il y ait de poussière qui s'intercale dans les canaux, par exemple, qui pourrait perturber le fluide ou, si c'est pour la partie optique, même perturber le signal optique. Donc on s'équipe avec des combinaisons.
Pendant qu'on s'équipe, des plateformes comme POM, il en existe beaucoup.
Dédiées spécifiquement à l'opto-microfluidique, dans la région, il n'y en a pas. Après, on a d'autres plateformes qui sont pluritechniques, pluritechnologiques.
La capuche aussi ?
Oui. Oui, parce que les cheveux, c'est un nid à poussière. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer l'intégralité de la plateforme en racontant une petite histoire depuis le début de la fabrication d'un dispositif jusqu'à la fin de sa fabrication et puis un début de caractérisation, c'est-à-dire de montrer un petit peu comment il va fonctionner et est-ce qu'il est fonctionnel, bien sûr.
Super, je vous suis. Voilà. Donc là, on rentre dans une autre pièce. Donc il y a des lumières toutes jaunes. C'est la première chose que je remarque.
C'est ce qu'on appelle des lumières inactiniques. C'est parce que la technologie qu'on met en œuvre pour fabriquer les puces, c'est une technologie basée sur l'insolation sous rayonnement ultraviolet. Et donc, on élimine par ce biais-là les rayonnements ultraviolets des lampes qui sont utilisées sous la plateforme.
Et on entend aussi donc il y a une ventilation assez forte.
En fait, on est sous une atmosphère qui est pratiquement hors poussière.
D'accord, donc on passe les rideaux en plastique.
On est sur une fabrication sur la base, au départ, de matériaux qui sont des matériaux que l'on fabrique au niveau de mon équipe. Ce sont des matériaux qu'on appelle hybrides, qui mélangent à la fois des parties organiques, comme des plastiques, et puis des parties minérales, comme du verre. Et le fait d'assembler ces deux types de molécules confère aux matériaux des propriétés qui sont complémentaires en fait entre les deux. À titre d'exemple, ce type de matériaux, c'est ceux qui sont utilisés pour durcir les verres de lunettes. Donc le point de départ dans la fabrication, c'est de fabriquer déjà un liquide. Et c'est ce liquide-là que l'on va travailler pour faire une microstructure sur une surface. Et cette microstructure, c'est elle qui va devenir la puce microfluidique in fine. Donc une fois qu'on a ce matériau qui est liquide, eh bien ce qu'on va faire, c'est pour fabriquer une puce, on le fait sur un support. Et le support, ça peut être du verre, ça peut être un wafer de silicium, ça peut être un morceau de plastique, ça peut être du silicone, quelque chose de mou. On peut utiliser à peu près ce que l'on veut, à partir du moment où on en soit capable d'y déposer une couche dessus. Donc quand je parle d'une couche, c'est une couche de quelques dizaines de microns dp seulement. Pour cela, on a plusieurs possibilités de dépôt. Celle que nous utilisons le plus fréquemment, c'est ce qu'on appelle le spin coating. Ça consiste à déposer une goutte sur un support que l'on va mettre en rotation et le liquide s'étale.
Donc ça se passe dans cette machine-là. Voilà. On voit un espèce de bac qui doit tourner, j'imagine, et alors, tout ça, c'est dans une armoire en verre. Un
ici,
peu.
On est dans un système qui est protégé des vapeurs d'alcool en termes de solvant. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on va déposer au centre et ensuite on va déclencher la rotation. Et en fait, en fonction de la vitesse à laquelle on va et en fonction aussi de la concentration de la solution, eh bien on peut déposer l'épaisseur que l'on veut. Alors plus on va vite, plus c'est fin. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est là qu'il va falloir qu'on fasse le processus d'écriture en fait, ce qu'on appelle l'écriture, à savoir que l'on va insoler, on va irradier localement la couche avec un rayon ultraviolet. Et à l'endroit où le faisceau ultraviolet va atteindre la couche, en fait, cet endroit, la couche va se durcir. Et donc, cette couche, ce durcissement fait que, eh bien, cette zone-là sera à ce moment-là résistante à de la dissolution dans des solvants, choses comme ça. Et donc, il suffira ensuite de tremper ça dans un solvant, qui sera de l'alcool. Et donc, tout ce qui n'a pas vu les rayons ultraviolets va partir. Et donc de cette façon-là, on va révéler une microstructure. Et si on s'est arrangé pour faire en sorte que la zone qui n'a pas été touchée par les irrégulés et ressemble à un canal, eh bien on va révéler comme ça, de cette façon, un début de canal.
D'accord, ça doit être hyper précis alors, j'imagine.
Ça doit être très précis, oui, tout à fait. On est à des résolutions de l'ordre du micron.
Les puces dont on parle, elles font quelle taille à peu près ?
Alors les puces dont on parle, elles font quelques millimètres à quelques centimètres de largeur ou de longueur.
Alors, une fois qu'on a mis les ultraviolets, qu'est-ce qui se passe ?
Les ultraviolets, on a plusieurs façons de faire. On a une première façon, alors je vais commencer peut-être par la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle de la photolithographie par masquage. À savoir qu'on va utiliser un masque que l'on va mettre, que l'on va intercaler devant les ultraviolets. Et donc, le masque, évidemment, il y aura des périodes, des zones noires et des zones transparentes. Et donc, les ultraviolets vont passer à travers les zones transparentes et par effet, l'échantillon sera derrière. Et donc, par effet d'ombre, en fait, tout ce qui est ombragé ne sera pas insolé. Et tout ce qui est ombragé, bien, qui n'est pas ombragé, le sera.
D'accord. Et ça se passe dans cette machine-là ?
Ça se passe dans cette machine-là.
Alors, c'est le UV cube 3.
Voilà, ça s'appelle un UV cube 3.
Donc ça, c'était la façon ancienne, vous m'avez dit.
C'est la plus ancienne, mais c'est aussi celle qui permet de faire du volume. Puisque là, on est capable d'insoler plein de puces en même temps. Ce qui n'est pas l'objet vraiment de la plateforme, puisque la plateforme, elle est dédiée plutôt au prototypage. Donc nous, on est plus un outil de recherche et de développement. Et donc c'est pour ça que, ici, faire du prototype avec un masque, c'est compliqué, parce qu'un masque, ça coûte assez cher à fabriquer. Et si on se trompe, eh bien, il faut refabriquer un autre masque. Donc c'est pour ça qu'on s'est doté d'un autre outil de fabrication, qui est vraiment dédié au prototypage. C'est ce qu'on appelle une machine d'écriture directe par laser.
Alors, je vais la décrire un petit peu parce qu'elle est rigolote, celle-là. Donc, ouais. C'est la Dilaz 650. Elle est toute bleue, on dirait une énorme console avec un verre bleu.
Enfin, je vais peut-être pas d'ouvrir, hein.
Moi, ça craint rien.
Bon, je vais pas la refermer, parce que sinon, ça pourrait rebouger. Le principe d'écriture, cette fois-ci, c'est au lieu d'utiliser un masque, on va utiliser un outil informatique. On va faire un dessin avec un outil de dessin assisté par ordinateur où on va dessiner l'endroit où on veut que le laser passe. Et donc, là où va passer le laser, bien, ça va être insolé, donc ça va être durci. Et là où passera pas le laser, mais ça sera pas durci. Ensuite, je vais pouvoir regarder ma puce, vérifier si c'est bon. Si c'est pas bon, eh bien, je reviens sur mon outil informatique, je modifie mon dessin et je relance la fabrication.
Ça permet de faire plus de tests, quoi. Le laser, là, il est dans le...
Le laser, en fait, non, ils sont derrière les lasers, là.
D'accord.
On la voit pas parce que c'est dans l'UV. Donc et forcément, oui. On la voit pas. Et là, c'est en train d'inscrire le motif.
Une fois qu'on a le masque, qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, on vient d'écrire. Une fois qu'on a fait cette insolation, eh bien on va tremper notre échantillon dans un solvant. Donc à ce moment-là, tout ce qui n'a pas vu le laser va partir et on voit des microstructures à la surface. Et donc on va venir y déposer par-dessus, on va fermer en fait, on va encapsuler. Et le principe de la fermeture, actuellement on a plusieurs technologies, mais celle qui est la plus rapide et c'est vers laquelle on essaye d'aller, c'est de faire ce qu'on appelle du collage plasma. On est équipé d'un appareil.
Cette fois-ci on dirait un gros micro-ondes.
Voilà, c'est ça, donc c'est la porte avec la grille, derrière il y a une enceinte, et c'est dans cette enceinte qu'on va ioniser un gaz en fait, avec un système radiofréquence, et là le gaz à l'intérieur c'est de l'oxygène que l'on va ioniser, et cet oxygène va venir activer la surface à la fois de notre système microstructuré et aussi de notre substrat de verre. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra sortir les deux échantillons et on pourra les mettre l'un en regard de l'autre sous presse. Et si tout se passe bien, eh bien, une fois qu'on a fait ça, on monte un petit peu en température et ça va rester ça attaché. C'est ce qu'on appelle le collage moléculaire. Mais on peut faire du collage aussi avec des colles particulières qu'on développe aussi nous ici.
Alors ensuite...
Voilà, donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a refermé, eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on aille... mettre des connecteurs, parce qu'il faut que le fluide, on puisse l'injecter. Donc, ce que je n'ai pas dit au préalable, c'est que le support, évidemment, il est préparé pour accueillir un connecteur qui va permettre d'injecter le fluide dans les canaux. On sort à ce moment-là de l'environnement hors poussière et on va dans la zone de caractérisation, on va dire, pour faire ça.
Donc on repasse les filets en plastique, les rideaux.
Donc maintenant, on va coller des connecteurs. Donc les connecteurs, il y en existe dans le commerce. Ou alors, on est capable de les fabriquer maintenant. On a une imprimante 3D. Et ils sont adaptés. Après, évidemment, il y a un embout qui est adapté, qui permet de rentrer dans un orifice qui est troué sur le verre supérieur et qui est en face de l'entrée du canal. Donc une fois qu'on a posé ces connecteurs, eh bien, la puce est terminée. Donc là, les applications sont possibles, sont très diverses. Hein. Évidemment, j'ai parlé du médical, mais dans le domaine de la chimie aussi, on est sur des volumes traités qui sont très petits, donc on peut faire des réactions chimiques à des échelles toutes petites et avec très peu de réactifs. Donc au niveau de la chimie, ça intéresse énormément. Aussi, on met en œuvre aussi de la physique un peu différente, des interactions aussi qui sont importante parce qu'on a un petit volume et beaucoup de surface, en fait. Et donc, pour les chimistes aussi, c'est très intéressant. On accède à des réactions chimiques qui seraient peut-être difficiles à faire dans des contextes avec des volumes plus importants. Dans le domaine de la biologie, le diagnostic médical, évidemment, rapide. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à l'échelle de la microfluidique, c'est toujours plus rapide en termes de diagnostic que ce qui va se faire avec des outils plus importants, plus volumineux.
Mais alors, concrètement, comment ça marche? Comment on fait un diagnostic avec cette puce? On met quoi dedans?
Disons que dans la puce, on va mettre, par exemple, on aura deux injections. On peut imaginer avoir d'un côté ce que l'on veut tester, je ne sais pas, par exemple un peu de sang, mettons, et de l'autre côté, on va mettre un réactif. Et ensuite, ces deux vont se rejoindre, on va mettre un mélangeur sur la puce, et puis derrière, eh bien, on va amener ce fluide à un endroit où on va pouvoir faire la détection. Donc la détection, ça peut se faire de façon encore chimique, on peut amener un troisième réactif qui va réagir avec tout ça, et peut-être ça va apparaître de façon colorée, peut-être on va mettre ça derrière un appareil de mesure optique qui va détecter la quantité de matière, etc., ou ça peut être électrochimique. Enfin, on peut imaginer plein de capteurs derrière qui vont permettre de mesurer le résultat de la réaction qui aura lieu entre ces deux systèmes. Récemment, on a essayé de déposer une ANR, malheureusement ça n'a pas passé, mais c'était pour le spatial. C'est pour fabriquer en fait un dispositif microfluidique qu'on enverrait dans l'espace de façon à détecter la vie extraterrestre. Je pense qu'on va continuer, on y croit à ce projet, donc on va poursuivre dans cette voie-là. Et ensuite, tous les autres appareils de caractérisation sont à l'extérieur de la zone de Pomme, parce qu'on Pomme est hébergé par mon équipe de recherche qui est spécialiste en sciences et génie des matériaux, ce qui veut dire qu'on a tous les outils de caractérisation des matériaux, donc caractérisation optique, thermique, structurale, texturale, enfin mécanique également, mais qui sont en dehors de la plateforme parce que ne nécessitent pas d'être dans une atmosphère particulière, mais sont à disposition évidemment de Pomme.
La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à notre indéfectible Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.